Alors merci à vous de votre accueil, merci à Jean-Marc aussi de son invitation, de son accueil. Je suis toujours très toutes les fois qu'on a collaboré, je l'ai vu aussi cette fois-ci, toujours très touché par le soin qu'il avait de celui qu'il invite et le soin aussi qu'il a de la pastorale pour faire en sorte que ça soit au mieux pour tout le monde. Je suis toujours touché par ça, merci. Donc se marier en 2019, des invitations bibliques aux pratiques des églises évangéliques, entre l'idéal et la réalité, un positionnement délicat. Et vous avez déjà le plan. Alors je ne sais pas ce que vous avez entendu dans le titre que je vous propose, qui a été retenu. Et avant de faire mon exposé, j'invite vous inviter maintenant à prendre un moment en silence et à vous poser la question à vous-même. Ça vous permettra aussi de clarifier, de mettre de la clarté sur vos attentes. À quoi est-ce que vous vous attendez ce soir? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous vous attendez à ce que je développe? Et je vous laisse vraiment, et je vous invite même peut-être à l'écrire éventuellement si vous voulez, mais c'est une proposition. Voilà, mais je vous laisse un petit moment de silence. Et qu'est-ce que vous imaginez que je vais faire? Qu'est-ce que vous espérez que je vais faire? J'interrogerai personne. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un petit peu de temps? Juste, je vous invite à lever la main si vous avez besoin d'un petit peu de temps encore. Ok, donc je continue. Donc je ne pose pas la question gratuitement, je la pose parce que vous avez lu ce titre et que vous l'avez décodé. Sans forcément en avoir conscience d'ailleurs. Vous avez fait un acte d'interprétation, tout simplement. Vous avez compris les choses. Et peut-être, alors ça dépendra des uns ou des autres, vous espérez des choses, vous attendez des choses, voire vous attendez de moi, vous espérez de moi quelque chose. Et malheur à moi, c'est peut-être si je vous prends en contre-pied. On fera ça ensemble, on verra ça ensemble. Peut-être est-ce que vous attendez de moi, par exemple, que des façons d'arbitrer des situations précises, ou bien que je mette en valeur un élément qui compte pour vous. Voilà, je ne sais pas. Je vous dis maintenant de mon côté ce que j'entends sous le titre. Et en fait, tout est dans le titre. Je ne vous dirai pas plus que le titre. Mon intention, au moins au départ. Je le dis autrement. L'intention qui est la mienne et ce que j'ai commencé de faire, c'est la chose suivante. C'est non pas tant exprimer des positionnements sur les situations contemporaines. Dans telle situation, il faudrait faire ça ou j'encourage à faire ça. Donc c'est pas mon intention. Mon intention n'est pas de vous donner mon point de vue sur telle ou telle situation, même si évidemment je vais aussi parfois donner mon point de vue. Mais c'est plutôt mon espoir, c'est de nous faire réfléchir ensemble à la façon dont nous lisons la Bible et la façon dont nous l'utilisons, si je peux employer ce langage. C'est essayer, je dis bien essayer, de nous faire sentir que le mouvement, le va-et-vient entre la Bible et nous, nos situations contemporaines, ne va pas de soi. Et de faire toucher du doigt la difficulté ou les difficultés de transposer les données bibliques à notre situation ou inversement. Et je ne vais pas simplement en rester là, je voudrais aussi, j'espère aussi, mettre des mots relatifs au pourquoi. Pourquoi ça me paraît en tout cas délicat. Pourquoi les choses en sont ainsi? Donc c'est pas tant qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans telle situation, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se met en marche quand nous essayons de répondre à ces questions-là. C'est pas tant qu'est-ce que la Bible dit, mais comment nous convoquons la Bible. si je peux employer ce langage. Et elle aussi, elle nous convoque. Se marier, des invitations bibliques aux pratiques des églises évangéliques. Alors, je vous propose donc de commencer par les invitations bibliques relatives au mariage. Et la première chose que je voudrais relever, c'est que de telles situations, à mes yeux en tout cas, semblent relativement peu nombreuses. Je parle proportionnellement par rapport au reste de l'Écriture. Je prends la Bible et je dis qu'est-ce qu'il y a dans le mariage. Je prends tous les textes bout à bout et ça fait quelle proportion. Alors je ne vais pas faire cette enquête-là, mais je vais juste m'en tenir à l'enseignement de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Si je n'ai pas fait d'erreur de comptage, ce n'est qu'à deux reprises dans l'Évangile de Matthieu qu'on trouve un enseignement explicite sur le mariage de la part de Jésus. C'est dans Matthieu 5 et dans Matthieu 19. Et on pourrait remarquer que Jésus se prononce davantage par rapport au divorce, en fait, que par rapport au mariage. Donc, ce n'est pas forcément un enseignement direct sur le mariage. Bien sûr, il va parler de mariage, mais on lui demande de se prononcer par rapport au divorce. Alors, il y a aussi des mentions de mariage ailleurs. Il est question du mariage de Joseph et de Marie. Il est question de mariage au moment de la résurrection. Vous savez, c'est les pharisiens qui demandent à Jésus, mais l'homme qui a eu plusieurs femmes, ou non, c'est la femme qui a eu plusieurs maris successifs qui sont morts à la résurrection, comment ça se passe? Voilà. Il est question aussi du mariage à l'époque de Noé, à la fin de l'histoire, on se mariera aussi, mais ce n'est pas des enseignements à proprement parler sur le mariage. Donc je dirais, au niveau enseignement explicite sur le mariage, consacré à la question du mariage, on trouve deux textes. Et je dirais que la moisson me semble relativement réduite. Et le reste du Nouveau Testament, sauf erreur de ma part, ne donne probablement pas un portrait beaucoup plus développé. Et je dirais qu'il s'attarde bien plus sur des sujets qui, en comparaison, nous occupent, nous, alors, quasiment pas du tout, parfois. Et je pense simplement au débat autour de la loi juive, de la circoncision, qu'on trouve tout au long du Nouveau Testament, dans les Actes, dans l'enseignement de Jésus, dans les Épîtres. Et c'est comme s'il y avait une inversion des proportions, que je trouve intéressante. Quand on mesure la place que la préoccupation qui nous habite aujourd'hui à l'égard du mariage tient pour nous. Il y a des pastorales, comme celle-ci, il y a des conférences, comme celle-ci, il y a des livres, comme celui-ci, que Jean-Marc vous a montré, je l'ai mis là aussi, parce que si vous me posez des questions auxquelles j'ai besoin de me référer, j'irai là-bas. Il y a des rayons entiers de librairies chrétiennes. Et je repensais d'ailleurs en préparant au vieux catalogue CLC, enfin quand je dis vieux, c'était vieux par rapport à ma jeunesse, et quand j'avais 20 ans. Et à cette époque-là, je me souviens du catalogue CLC sur tout le rayon, sur tous ces sujets-là, il y avait deux pages qui étaient intitulées « Morale ». Et on trouvait beaucoup les livres de Paul Tourny à l'époque, c'était quasiment les seuls produits proposés. Le christianisme évangélique aujourd'hui me semble en proportion bien mobilisé, occupé, préoccupé par cette question, qui est donc bien plus présente pour nous dans nos préoccupations qu'elle n'apparaît, il me semble, dans l'Écriture. Et alors, je fais une parenthèse, mais ça m'a étonné, donc je vous fais part de mon étonnement aussi. Pour la petite histoire, ce n'est pas propre au protestantisme ou au christianisme, au protestantisme évangélique, puisqu'il y a, je constatais en rentrant il y a un an dans une librairie musulmane, dans deux librairies musulmanes à Lyon, qu'il y avait aussi des rayons entiers qui étaient consacrés à la question. Et c'était la même chose qu'à la CLC, sauf que évidemment c'était une librairie musulmane. Donc il y avait des rayons doctrinaux, et c'était large comme ça, c'était très large, mais il y avait la même chose au-dessous par rapport au mariage. Donc je voudrais simplement le constater, j'ai pas de message subliminal à faire passer en disant je vais vous faire comprendre quelque chose, non, je veux juste le constater. Mais c'est aussi un paramètre qui est lié au moment où on fait l'application. On n'a pas beaucoup de textes pour se prononcer. Ceci dit, deuxième aspect, mettons-nous à l'écoute d'un texte qui, à mes yeux, reste un texte fondateur sur la question. C'est le passage de Matthieu 19 que je lis dans la traduction du Semeur, du verset 1 au verset 10. Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérit là les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain homme et femme et qu'il a déclaré « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi ils ne seront plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Citation du texte de la Genèse. Mais les pharisiens objectèrent, pourquoi Moïse alors a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle ? Citation du Deutéronome. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Alors voilà l'ensemble du texte, c'est pas pour que vous le lisiez, c'était juste pour le mettre en ensemble. Donc texte qui joue un rôle fondamental à mes yeux pour notre sujet. De quoi est-il question en effet ? Alors il est question de divorce, certes, et du coup de mariage. Vous connaissez cette boutade, la cause première du divorce, c'est le mariage. Revenons à Jésus. En même temps, donc il est question de divorce et de mariage, mais en même temps il est question d'interprétation des textes bibliques à propos du mariage. Et c'est bien ce à quoi je vais nous faire réfléchir ce soir. Et il est question d'application de ces textes bibliques plus anciens à la situation alors contemporaine. On est en train de citer des textes d'Ancien Testament, 1500 ans peut-être avant, ou je ne sais pas combien, plus de 1000 ans avant, et on est dans la situation de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de ces textes ? Comment on les comprend ? Voilà ce que dit la Bible, on en fait quoi aujourd'hui ? Et on le sait, généralement, les lecteurs de la Bible qui étaient des pharisiens débattaient entre eux justement à propos du texte, du champ d'application de la loi que Moïse avait donnée dans le Deutéronome. Voici le texte, enfin un extrait, le début, à propos du divorce. Et dans le texte, j'ai surligné une chose malséante, quelque chose d'infâme. C'était quoi cette chose infâme qui permettait, qui rendait possible la rédaction d'une lettre de divorce ? Et si vous consultez une simple Bible à notes, on apprend qu'il y avait au tournant de notre ère, donc à l'époque de Jésus, grosso modo deux parties. Il y avait d'abord l'école de Shammai, du Rabbi Shammai, pour qui on pouvait renvoyer sa femme en cas grave, notamment l'infidélité de sa part. Et puis il y avait de l'autre côté l'école de Rabbi Hillel, pour qui on pouvait la renvoyer pour toutes sortes de motifs, pour une raison quelconque. Style, elle a fait brûler votre plat favori, les œufs sur le plat par exemple, je ne sais pas si c'est votre plat favori, et je ne sais pas si on mangeait des œufs sur le plat à l'époque, mais voilà. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Jésus, toi, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu te positionnes où dans cette affaire ? Imaginez que vous aviez la Bible de Jésus, c'est-à-dire la Bible moins le Nouveau Testament. Vous auriez répondu quoi à vous ? À partir de ces textes, voilà, tous ces textes, enfin ces quelques textes d'Ancien Testament qui parlent du... Alors, je ne vais pas vous laisser sur le feu. Je vous dis très, très simplement, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Mais probablement pas ce que Jésus a dit. J'en fais l'hypothèse. Donc, pour répondre, Jésus cite le texte fondateur, le texte biblique fondateur, à savoir les paroles prononcées par Dieu au moment de la création, en lien au mariage. Et on peut remarquer qu'à la question « Est-ce qu'on a le droit ?», Jésus répond sur un autre terrain, celle de l'intention de Dieu, en mettant en place le mariage. Mais c'est pas fini, parce que ces interlocuteurs ont une difficulté. Ok, l'intention de Dieu pour le mariage, c'est important. Oups. Et en même temps, ailleurs dans le Deutéronome, il est bien question de divorce comme une loi que Dieu a donnée. Donc Dieu, il avait l'intention, d'accord, mais Dieu a dit autre chose. Alors on fait quoi ? La Bible dit ça, et puis ailleurs, elle dit autre chose. Enfin, elle a dit quelque chose qui... Comment est-ce qu'on gère ces deux passages qui apparaissent au moins en tension ? On fait quoi ? Et j'ai envie de vous renvoyer dans l'époque en disant, à la place de Jésus, vous auriez répondu quoi ? Voilà, donc je ne demande pas de répondre, mais je soupçonne que si j'avais été à la place de Jésus, heureusement j'y étais pas, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Je ne sais même pas si j'aurais su répondre. Et Jésus, lui, le fait en plaçant le texte en perspective. Et c'est un positionnement qui me paraît fondamental, et encore pour nous aujourd'hui. Jésus donne accès à ses auditeurs, et il nous donne accès à l'intention qui est associée à la loi sur le divorce. Il la présente comme une concession bienveillante de Dieu à la dureté humaine. Oui, c'est une diapo qui est mal fichue. J'ai pas eu le temps de la flinguer. Jésus, autrement dit, place ce texte du Deutéronome en relief. Comme il dit, ce texte du Deutéronome, il s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, mais c'est quelque chose de la chose la plus vaste qui doit compter d'abord, si je puis dire. Et du coup, Jésus me donne à comprendre que quand nous pensons au mariage, il va s'agir aussi d'y penser en ayant bien en tête l'intention divine avant la chute, avant la révolte humaine. Et aussi, Jésus me donne à voir que tout dans la Bible, entre simplement la Genèse et le Deutéronome, tout dans la Bible n'est pas à mettre au même niveau. Et ça compte aussi pour nous aujourd'hui. C'est en tout cas la façon dont je comprends le texte. Et vous voyez déjà que j'ai commencé à rassembler quelques éléments que personnellement, en tout cas, je vais retenir, ce qui ne sera peut-être pas le cas de tous parmi vous. Donc il y a des éléments qui concernent l'usage de l'Écriture et des éléments qui concernent le mariage. Pour ce qui concerne l'Écriture, je retiens quel est pour Jésus le point de référence, et vous remarquerez que c'est aussi le point de référence de ses interlocuteurs. Les pharisiens, à aucun moment, ne disent « Oui, mais bon, la Bible, c'est bien, mais il y a à boire et à manger dedans. » Non, non. Ou bien ils ne vont pas dire « Ah, mais d'accord, mais la Bible, on ne peut pas fonder une éthique dessus, ça, c'est caduque, maintenant c'est vieux, tout ça. » Ou bien c'est... Non. Ou bien nous, « Ok, la Bible dit ça, mais nous, quand même, on a quand même davantage d'expérience que la Bible. » Non. Pour Jésus, et comme pour ses interlocuteurs, c'est le même socle. C'est la Bible qui fait autorité. Deuxième élément... La confiance que l'Écriture, au travers de mots humains, de paroles humaines, dit la pensée de Dieu. Ce qui ne serait pas la perspective de tous ceux aujourd'hui qui se reconnaissent, qui se considèrent comme chrétiens. Et puis le fait que dans la Bible, eh bien, tout n'est pas à prendre au même niveau. Donc je veux dire que Jésus nous ouvre un petit peu une façon de lire la Bible. Et ça me paraît important. Deuxième aspect, pour ce qui concerne le mariage. Alors, moi j'ai l'impression de voir dans le texte le désir de Dieu d'une union qui dure, qui n'est pas rompue par le divorce, le souhait de Dieu, et le divorce à comprendre, lui, comme une tolérance de Dieu, une dimension à laquelle le texte nous rend sensibles, même s'il critique l'attitude humaine qui voudrait profiter, abuser de cette tolérance. Et puis quelque chose aussi que Jésus semble valider ou tolérer en cas d'immoralité sexuelle. C'est dans le texte, dans la suite du texte. Et cette liste, alors là je suis juste sur le texte là, je ne vais pas continuer, mais cette liste, elle pourrait être enrichie par d'autres éléments à partir de l'étude d'autres données bibliques. Alors, pour ma part, je penserais, par exemple, je ne vais pas faire l'inventaire de mes convictions, que la Bible nous adresse une invitation à la monogamie. Ce qui ne va pas de soi, d'ailleurs, parce que dans l'Écriture, vous savez, si vous la connaissez, qu'il y a aussi des polygames. Une invitation à ce que le couple soit constitué d'un homme et d'une femme. Une invitation qu'un chrétien épouse quelqu'un qui partage sa foi chrétienne. Et puis je m'arrête là, mais je suis sûr que chacun pourrait élargir ou peut-être élaguer cette liste. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais je fais, disons, grosso modo l'hypothèse que dans la plupart des choses qui sont si on se reconnaît comme évangélique, on s'y retrouve en général, voilà, la plupart d'entre elles. Mais même si vous ne vous retrouviez pas dans cette liste, je fais l'hypothèse que vous aussi, vous avez votre liste. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Que vous voyez dans la Bible un ensemble de valeurs qui sont les vôtres et que vous seriez prêt plus ou moins à défendre au nom de la Bible. Et j'ai envie de dire, on ne va pas débattre de ce qu'on mettrait sur la liste ou pas, partons chacun de notre liste. C'est ma proposition. Évidemment, si par contre pour vous la Bible ne compte pas, n'a pas la même valeur, si c'est un texte un peu daté par exemple, hein, là la posture va être très différente. Donc je m'adresse, voilà, on pourrait débattre entre nous du coup, mais l'un ou l'autre, pourquoi est-ce qu'on s'appuie, sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Si on s'appuie pas sur la Bible, c'est quoi? Si on s'appuie sur la Bible, pourquoi? Et on pourrait débattre de ça, mais c'est pas mon propos maintenant. Donc je me consacre aux pratiques des églises évangéliques, et je parle de l'intérieur du mouvement évangélique. Donc, voilà donc pour la Bible, ou pour ce que je vois, ce que nous voyons les uns et les autres dans la Bible. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je passe, oui, c'est ça. En même temps, je signale au passage que ce n'est pas si simple. C'est parce que ce texte-là, sauf en cas d'immoralité sexuelle, même ce texte-là n'est pas évident. On peut en débattre avec des personnes qui ont les mêmes convictions sur la Bible. Parce que ce que Jésus appelle l'immoralité sexuelle, c'est quoi? Et je ne vais pas rentrer dans les débats, parce que là, c'est un peu compliqué, mais on y a vu une relation sexuelle hors mariage. On y a vu des mariages avec des personnes qui ont un lien de parenté trop proche, c'est-à-dire les cas du Lévitique. L'immoralité sexuelle, ce ne serait pas les relations sexuelles hors mariage, mais d'épouser quelqu'un ou d'avoir une relation avec quelqu'un qui est un cousin ou je ne sais pas combien, un degré de parenté. On y a vu aussi des mariages entre judéo-chrétiens et pagano-chrétiens. On y a vu des relations prémaritales. Donc, je suis sûr que nous, quand on lit le texte, on a tout de suite une idée sur ce que c'est l'immoralité sexuelle, mais qu'est-ce que Jésus lui avait en tête ? C'est pas si évident. Je ne veux pas mettre le doute. Hein. Je dis, entre personnes qui ont le même attachement à la Bible, il y a des débats sur cette question-là. Je le signale au passage. Je reviens au titre et à son début. Se marier en 2019. Que se passe-t-il en 2019 ? Alors là, je vais être beaucoup plus bref, parce que, ne serait-ce que parce qu'on a tous une idée plus ou moins précise sur la question, et j'ai pas envie d'enfoncer des portes ouvertes ou de répéter des propos comme ça va de mal en pis, voilà. Et aussi parce que ça échappe à mon champ de familiarité. Je suis assez décalé, et c'est un euphémisme, je suis extrêmement décalé par rapport à l'actualité. Mais je ne vais pas vous parler de moi, si vous voulez en savoir plus, je vous en dirai plus en secret. Ce que je dirais, c'est que le mariage et l'actualité, la plupart des églises évangéliques, ordinairement, la rencontrent, alors sauf si on veut se positionner sur des débats de société, mais sinon on le rencontre quand un couple frappe à notre porte et demande qu'on les marie. Ce qui est le cas d'ailleurs d'une minorité de couples aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. C'est là, dans la pratique quotidienne, que nous sommes le plus directement concernés. Et je m'en tiens à quelques extraits d'un article auquel j'ai pris un grand goût, qui a été publié en 2009, vous trouverez sur Internet, je pense qu'il est complètement en ligne. « Bénir ou ne pas bénir », c'est le pasteur Richard Gelin de l'Église Baptiste, j'ai pas fait exprès, hein, qui raconte les pensées qui traversent le pasteur. Le couple avait pris rendez-vous par téléphone en précisant qu'il souhaitait un entretien en vue d'un mariage. En attendant leur arrivée, le pasteur G. se demandait dans quel cas de figure il allait cette fois-ci se trouver. L'un des deux serait peut-être divorcé, sinon les deux. À moins que, l'un n'étant pas baptisé, un prêtre leur ait conseillé de s'adresser au pasteur baptiste. À coup sûr, ils vivraient déjà ensemble et auraient peut-être même déjà des enfants. Peut-être fréquentait-il une église évangélique où on leur a refusé cette cérémonie. Récemment, cette situation s'était présentée deux fois. À chaque fois, G avait commencé par prendre contact avec les collègues concernés, et quelle n'avait pas été sa surprise de découvrir que dans les deux cas, ceux-ci étaient soulagés à l'idée qu'éventuellement ils interviennent. Leur vertu évangélique était sauvegardée, et le couple satisfait. Il avait gardé pour lui ses sentiments collégiaux. Il est toujours dangereux de juger du courage des collègues. Quelles circonstances auraient conduit ce nouveau couple à lui demander cet entretien, et pourquoi à lui? Dans quelques minutes, il en saurait un peu plus. À partir de son expérience, G pouvait dresser une longue liste de cas abracadabrants. À dire vrai, ça faisait plusieurs années qu'un couple à l'ancienne ne l'avait pas sollicité pour un entretien préconjugal. Quant à l'idéal, le pasteur G était en plein accord avec ses collègues. Ah, la joie de recevoir un couple hétérosexuel, monogame, désireux de s'engager dans une union sans réserve, dont la foi partagée serait un ferment d'unité, et qui plus est, capable de patienter jusqu'au grand jour. Mais ces couples se faisaient rares, alors que l'évolution des comportements sociaux produisait toutes sortes de situations atypiques. Alors chacun pourra illustrer, sans doute à partir d'exemples personnels auxquels il aura été confronté, qui l'auront préoccupé. Je donne deux exemples personnels, ou peut-être un seul. J'en donne un, voilà. Je suis jeune pasteur, c'est mon premier poste. Demande de mariage d'un couple, dont un des deux au moins est de la famille d'un des membres du conseil. Je crois qu'ils ont la trentaine. J'étais jeune pasteur à l'époque, maintenant je suis un vieux pasteur et je me souviens plus de ce qui se passait quand j'étais jeune. Donc ils ont la trentaine, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. Ils ne s'intéressent pas intensément à la foi chrétienne, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et l'élément qu'il a fallu peser à l'époque, c'est plutôt « j'ai envie de dire non ». Mais est-ce que c'est une posture qui est viable dans la situation relationnelle où je suis avec le conseil ? Indépendamment déjà du couple, je ne sais pas trop me positionner par rapport à eux, j'ai envie de dire non, mais je suis aussi en relation avec un groupe qui prend une décision, je ne prends pas une décision tout seul. Et c'est l'époque où je mesure que la prise de décision en Église ne se fait pas dans le vide, mais en interaction avec des responsables, et puis ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais en relation avec une communauté, parce qu'il y a les responsables qui prendront une décision, mais il y a la communauté aussi derrière, par la force des choses, qui aussi aura un regard. Et d'autres responsables, en tout cas, qui ne partagent pas le même point de vue que moi. Et nous avons beau, ensemble, nous réclamer tous de la Bible, ça ne suffit pas, loin de là, à avoir des perspectives communes. Au contraire, ça peut même devenir un peu sévère. Je saute l'autre exemple, mais c'était un couple qui, il y a 10 ans, qui a frappé à notre porte à Villefontaine. Ils n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne. Enfin, si. La seule chose qu'ils voulaient, ils avaient un arrière-plan catholique, et la seule chose qu'ils voulaient, c'était pourvu que ce soit pas des catholiques. Tout, mais pas le catholicisme. Donc ils ont pris l'annuaire, et les communes voisines, Villefontaine, église protestante, bingo, téléphone, c'est moi. Mais c'était important que je le dise, parce qu'il y a aussi des personnes voilà, qui débarquent. Parce qu'ils avaient un sens, dans notre relation, ça faisait 10 ans qu'ils vivaient ensemble, ils avaient la quarantaine ou la cinquantaine, ils avaient des enfants, voilà. C'était, mais ils avaient un, comment on appelle ça, pour reprendre acte 16, un sentiment diffus du Dieu inconnu. Quelque part, dans ce qui se passe entre nous, on touche une autre dimension. Il y a quelque chose au travers de notre humanité qui nous renvoie à plus grand que nous. Et on ne peut pas le faire tout seul. On fait quoi avec ça, avec eux ? Comment accueillir ces situations et comment les accueillir au nom de Jésus, si je peux employer ce langage, en étant témoin de Jésus ? Et comment articuler les convictions dont je viens de parler et ces situations ? Comment on fait le pont ? Comment passe-t-on de la Bible à aujourd'hui ? Des invitations bibliques aux pratiques des églises évangéliques. Que faisons-nous quand notre avis à propos d'un projet de mariage ou notre participation nous est demandée ? Alors pour certains d'entre nous, peut-être, alors je vais peut-être être caricatural, mais peut-être pas, je ne sais pas, la réponse peut paraître simple. Eh bien, la Bible est claire. L'être humain et son cadre de vie, oui, ils ont changé, mais Dieu, lui, n'a pas changé, son exigence non plus. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand une demande nous est faite, eh bien, il suffit de voir ce que la Bible nous commande. Il suffit de prier et il suffit de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors j'ai envie de dire, oui, Dieu est le même, je le crois aussi. Oui, il s'agit de faire ce que Dieu commande, je le crois aussi. Oui, c'est important de prier. Oui, c'est important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et je serai le premier à confesser, sans gêne, que pour moi, il y a du manque à gagner dans ces domaines-là. Pas de problème, j'admets. Ceci dit concrètement, je ne veux pas dire que c'était l'abstraction, non, je dis, dans les communautés évangéliques, là où l'on prie et là où on se met à l'écoute de l'Esprit, je constate l'existence d'une divergence dans les pratiques. Avec les mêmes postulats, avec les mêmes convictions, des personnes, des pasteurs, des chrétiens aboutissent devant des situations analogues à des comportements qui sont différents. Alors j'ai commencé à l'évoquer en parlant de cette situation de demande de mariage et puis au sein du conseil on n'a pas le même regard. Je l'ai illustré avec l'exemple du pasteur G qui évoquait certains de ses collègues qui avaient dit non au couple et qui étaient heureux en même temps que quelqu'un dise oui. Et je l'illustre aussi à plus grande échelle à présent, ça va être bref ici, à partir d'une enquête que j'ai faite il y a quelques années donc avec la collaboration, le soutien de Jean-Marc, merci encore Jean-Marc, au sein des églises de la pastorale lyonnaise, c'était en 2011 à peu près. Et j'avais interviewé à l'époque 57 responsables d'églises protestantes, Alors, je vous passe tout de suite le truc. 5 communautés réformées, qui s'appelaient à l'époque réformées, et 52 communautés évangéliques. Où il y avait 29 communautés que j'appelle classiques, c'est-à-dire des non-pentecôtistes ou des non-charismatiques, pour faire bref, et 23 communautés dites charismatiques pentecôtistes. Et à chacune, j'ai demandé il y avait 7 pages de questions, mais donc grosso modo, c'était, il y a un couple qui se présente, vous leur dites quoi? Ils demandent un accompagnement en vue du mariage, vous faites quoi? Donc, qu'est-ce que vous faites s'ils appartiennent à votre famille d'église? Ils sont tous les deux chrétiens et ils sont dans votre famille d'église. S'ils sont tous deux chrétiens, mais il y en a un qui vient d'une autre église, vous faites quoi? S'il y en a un qui est dans le couple, qui est extérieur à la foi, et un qui est de l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Ils sont concubins, non concubins? Si l'un ou l'autre est divorcé, demandez-vous une préparation mariage, etc., etc. Je vous donne un bref échantillon des résultats. Et je ne m'attarde pas aux réponses des communautés réformées, parce que j'ai pas le temps de le faire, entre autres. Mais je n'ai pas de souci pour en parler. À la question, par exemple, est-ce que ça marche? Oui, hop, là, je vais trop vite. À la question, deux concubins chrétiens qui appartiennent à votre famille d'église, les accompagnez-vous jusqu'au mariage? 6 communautés dites classiques répondent par toujours oui, oui, et 5 pentecôtistes. 2 classiques et 2 charismatiques répondent toujours non. 18 classiques et 16 charismatiques répondent par oui, à condition que, et là on propose un certain nombre de conditions, parfois on n'en propose qu'une, parfois on en propose un mix, donc je vous mets les conditions bout à bout, si vous voulez les détails, vous pouvez avoir le polycope. Voilà, donc les conditions qui m'ont été mentionnées. Oui, à condition que le couple s'abstienne de la scène. 4 classiques, 6 charismatiques. Je ne vais pas donner les chiffres, mais si, vous ne les avez pas. Oui, à condition que la cérémonie ait lieu ailleurs qu'à l'église. 3 classiques, 9 charismatiques. Oui, à condition que la cérémonie ait une forme particulière. 0 classique, 1 charismatique. À condition que je ne sois pas soucieux devant le projet du couple. 3 classiques, 0 charismatique. À condition que la préparation du mariage soit faite par vous. 1 classique, 0 charismatique. À condition qu'il y ait un amour réel. 1 classique, 0 charismatique. À condition qu'il y ait une reconnaissance d'un écart par rapport à la volonté de Dieu. 12 classiques, 4 charismatiques. À condition qu'ils se séparent jusqu'au mariage, 12 classiques, 11 charismatiques. Alors je vous donne, pour illustrer un petit peu l'affaire, je vous donne brièvement trois exemples. Donc que faites-vous? Alors, les numéros, exemple 5, parce que dans l'enquête c'était classifié 5, j'ai pas changé le chiffre. Donc que faites-vous? Deux personnes qui font profession de foi, qui sont non concubins. Est-ce que vous les accompagnez au mariage? Oui. Ils sont concubins? Non. Et puis tout le reste, donc un couple mixte, chrétien, non chrétien, concubin ou non concubin, réponse non. Deux personnes non extérieures à la foi, réponse non. Ça c'est une première approche, c'est la plus simple, si je puis dire. Vous allez voir, après c'est un peu plus compliqué. Donc deux personnes qui font profession de foi, qui sont non concubins, est-ce que vous les accompagnez jusqu'au mariage? Oui. S'ils sont concubins, je suis sur la première ligne, oui, à condition qu'il y ait une reconnaissance de l'écart et parfois que le couple se sépare jusqu'au mariage, si j'estime que leur maturité chrétienne est suffisante pour qu'ils soient en mesure d'entendre. Donc il y a des nuances par rapport à ce que j'avais dit. Si, couple mixte, oui, je les accompagne jusqu'au mariage, à condition que la personne non croyante suive un cours alpha. J'explique aussi qu'il y a des tensions dans le couple en lien à la foi. S'ils sont concubins, oui, à condition qu'il y ait reconnaissance de l'écart et que la personne non-croyante suive un cours alpha. J'explique aussi qu'il y aura des tensions dans le couple en lien avec la foi. Deux personnes complètement extérieures à la foi, non, je ne les accompagne pas, mais s'il y a insistance, souhait de prolonger, véritable intérêt, alors oui, à condition qu'ils suivent un cours alpha. Et concubins, non, mais s'il y a insistance, voilà. Dernier exemple. Deux personnes faisant profession de foi, non concubins. Oui, à condition qu'il y ait absence de relation intime. Oui, à condition que le couple concubin. Oui, à condition que le couple se sépare jusqu'au mariage. Couple mixte, mixité de type ecclésial, c'est-à-dire une personne de l'église baptiste et une personne de l'église libre. Je dis n'importe quoi. Oui, à condition que les personnes suivent ensemble les enseignements sur le mariage. S'ils sont non concubins. Concubin, oui, à condition que le couple se sépare jusqu'au mariage. Si c'est un couple sans enfant, autre nuance. Ou bien qu'ils vivent dans l'abstinence, si c'est un couple avec enfant. Bon, je ne vais pas jusqu'au bout parce que j'illustre la diversité. Faites-vous une préparation au mariage? Oui, disent 27 classiques et 21 charismatiques. Combien de séances? Là, ça se complique. Enfin, ça se complique, ça. Les différences apparaissent. En moyenne, 5,2 chez les charismatiques, 5,6 chez les classiques. Mais le nombre moyen de séances peut varier. L'un me dit minimum 10. L'autre me dit 4, 5, parfois plus, avec 2 heures par séance. Un autre me dit 2 ou 3, en fonction de l'âge et de l'expérience. Un autre, environ 8, mais pendant plus ou moins une année. Là, il faut prévenir à l'avance. Excusez-moi. Je ne sais pas si tous les couples sont capables d'entendre ça, c'est tout ce que je veux dire. Pour des personnes non familières, 12 séances. Pour des personnes familières que je connais, 4 séances. Autre paramètre, voilà. Évolution des attitudes du pasteur au fil du temps. Voilà, vous avez été pasteur depuis 20 ans. Est-ce que vous avez changé au fil du temps? Certains ont gardé le cap qui se sont donnés au départ. Je cite, « J'ai toujours été ferme par rapport à la parole de Dieu. On ne mariera pas des incroyants et on ne mariera pas des concubins. » Comme ça. Entre guillemets, on ne mariera pas comme ça. C'est-à-dire sans rien leur imposer. D'autres ont évolué dans le sens d'une plus grande tolérance. Enfin, mettez le mot tolérance entre guillemets. Là, je ne sais pas quel mot employer. Ou d'un plus grand laxisme. Voilà, si vous... Si. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais plutôt dans le sens de relâchement, une posture qui était plus résistante au départ. Et je cite une phrase, « Dans le cas d'un concubin non-croyant, je me vois mal aujourd'hui demander aux non-croyants la séparation, mais j'aurais exigé cela au début de mon ministère. » Et d'autres ont évolué dans l'autre sens. « Je suis devenu plus rigide dans ma position, je cite. Hein, là. Au début, je ne disais pas non à un couple mixte, croyant-non-croyant, maintenant je le fais. » Donc voilà, je vous envoie une liste d'exemples. Autant dire que tout ça est à géométrie variable. Éclatement des réponses pratiques par rapport aux situations concrètes. Et même au sein de la même famille d'église. Et en fait, l'homogénéité, alors j'en reviens du coup au côté réformé, on la trouve à l'époque côté réformé. Alors évidemment, c'est plus simple parce qu'il y a une discipline d'église. Et là, en cas de mariage, ben voilà, là, on a balisé ensemble le chemin à suivre, donc du coup, tout le monde fait pareil. Mais chez les évangéliques, ben, il n'y avait pas deux questionnaires qui étaient remplis identiquement. Même dans la même famille d'église. Et plusieurs ont tenu à être fortement assurés que leur réponse serait confidentielle. Ils n'auraient pas aimé que les collègues découvrent une partie de ce qu'ils font. Et je trouve l'éclatement est d'autant plus embarrassant qu'il ne correspond pas à l'unité des convictions de base. Mais l'éclatement, il est là. Deuxième aspect, après la diversité contemporaine, historique. On pourrait voir la même diversité quand on passe en revue l'histoire de la lecture des textes bibliques. Je l'illustre à partir d'un texte simple, enfin simple. On pourrait parler de la façon dont Jésus et Paul, quand est-ce qu'on divorce, quand est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut se remarier, etc. Donc j'en parle pas. Illustrons par un texte dont on parle moins, 1 Timothée 3,2, donc qui énumère une partie des conditions pour reconnaître les anciens, les responsables d'une communauté. Donc l'ancien doit être, dit le texte dans les traductions habituelles, mari d'une seule femme. Ok, ça veut dire quoi? Alors je vous dis ce qu'on y a vu. Voilà, désolé si vous paraît couper les cheveux en quatre, mais voilà, on voit ça dans l'histoire. Et on voit ça dans nos Bibles aujourd'hui. Il y a deux Bibles qui vont être citées, elles ne font pas le même choix. On y a vu la nécessité de ne s'être marié qu'une fois. Autrement dit, si vous êtes veuf ou remarié, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas être responsable. Dans chaque cas, vous verrez, ça a des incidences pratiques. Il y a des personnes à qui on dit non. Hein. Si vous trouvez ça insolite, c'est quand même le choix de la traduction de la Bible en français fondamental. On y a vu, deuxième option, la nécessité d'être monogame, pas polygame. Et c'est comme ça que Calvin, par exemple, lisait le texte. On y a vu aussi une invitation aux divorcés d'être responsable de... une interdiction, ce n'est pas une invitation, c'est le contraire. À ce que le candidat... Une interdiction aux divorcés d'être responsable d'église. Et parfois, on a étendu cette interdiction à quelqu'un qui n'était pas divorcé, mais qui avait épousé une divorcée. On y a vu aussi une invitation, là on dit « mari ». Donc il faut que le candidat soit marié. Et enfin, l'idée que Paul demande à ce que on ait affaire non pas à un homme à femme, au pluriel, mais à l'homme d'une seule femme. C'était l'homme d'une seule femme. Voilà, ce frère qui est mort, ben c'était l'homme d'une seule femme. C'était un homme fidèle, un mari fidèle. Et c'est la traduction de la Bible du Semeur. Et là, on n'est pas dans l'abstraction, on est dans les choix très concrets de... Tu rentres au conseil, tu ne rentres pas au conseil. Quoi. Donc, disparité et éclatement, autant dans la pratique que devant la compréhension des textes. Voilà. Et partager les mêmes valeurs fondamentales ne nous fait pas aboutir aux mêmes postures. Je vous propose quelques raisons pour ça. Alors, ce constat peut être déroutant. Je mesure, ça peut même être consternant. Mais en même temps, j'ai envie de nous dire ce qui est, est. Les choses sont comme ça. On constate. Reconnaissons la situation telle qu'elle se présente. On en est peut-être triste, mais c'est ça. Quelques mots pour l'expliquer. Alors, en dehors du péché qui nous habite, qui nous habite et qui nous amène à faire des choix juste parce qu'on a envie de faire ce choix-là, quoi que dise la Bible. Enfin. J'ai envie de dire qu'il y a des choses qui me paraissent toutes simples, qui sont nécessaires à prendre en compte, et je voudrais mettre des mots dessus. Et leur point commun, il est très simple, à mes yeux, enfin, il me paraît très simple, c'est qu'il est lié à notre humanité. Entre les invitations bibliques et le monde d'aujourd'hui, ben, il y a un lecteur, il y a des lecteurs que nous sommes, et à chaque instant. Premier aspect, ben, nous ne sommes pas dans le monde de la Bible. Et même d'ailleurs, même si nous avions été dans le monde de la Bible, nous voyons avec le débat entre Jésus et les pharisiens qu'ils n'avaient pas tous le même avis. Donc, la Bible, pour nous, c'est un objet que nous lisons à des années après sa rédaction, et même dans une démarche de prière et même avec l'assistance du Saint-Esprit, eh bien, nous l'abordons avec ce que nous sommes, et nous ne lisons pas de la même façon. Et le fait simplement que des traductions respectables, le Semeur et la Français Courant, ne traduisent pas de la même façon, ben, l'illustre. Et même quand nous sommes dans le même monde, il se trouve que devant les mêmes signes inscrits, ou devant le même signe, nous ne les comprenons pas de la même façon, parce que nous les regardons chacun de notre point de vue. Et une image qui l'illustre très bien. C'est un 6 ou c'est un 9? Et j'ai envie de dire... Enfin, je mesure que je peux être très inquiétant, mais moi j'ai envie de dire, ça me rassure. Enfin, c'est pas surprenant à mes yeux. C'est une expérience ordinaire. La même situation donne lieu à des compréhensions qui sont divergentes et parfois diamétralement opposées. Je sais pas pour vous, mais moi pour ma part, j'expérimente tous les jours avec ma femme. Il se passe un truc, elle réagit, mais elle est bête de réagir comme ça, et elle me dit, mais non, mais oh, bon, ça se passe pas comme ça. Et puis je peux vous parler de mes relations avec mes beaux-parents, qui quand je les ai vus pour la première fois, ben, c'était des gens qui me ressemblaient beaucoup, comme vous me ressemblez beaucoup, vous avez apparemment tous deux yeux, deux bras, deux jambes, là pour la plupart d'entre vous, souriants, sympathiques a priori, mais quand on commence à se côtoyer, ces gens-là, ils commencent à quand même être extrêmement bizarres au bout du compte, hein, je le dis entre nous, mais quand même. Et eux, entre nous aussi, ils avaient un sentiment à peu près identique à vos propos. Voilà. Ne serait-ce que pour couper le gâteau de mariage. Alors, est-ce que c'est si étrange que ça se présente aussi autour de la Bible ? Repensez à ce que vous avez eu en tête au début, là, l'exercice. Qu'est-ce que vous attendez à quoi ? Et pensez à ce que vous venez d'entendre. Et vous dites, c'était ça ? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Nous ne lisons pas les mêmes signes de la même façon. Alors, on peut être d'accord, par exemple, pour déplorer qu'un croyant envisage d'épouser un non-croyant, entre guillemets, être d'accord pour reconnaître que la Bible invite à autre chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on peut le dire tous, ou enfin, je sais pas, ou un certain nombre peuvent le dire, mais est-ce que ça veut dire qu'on met tous le même coefficient de gravité? Est-ce que l'invitation est la même dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, par rapport à un couple mixte? Et comment on articule l'Ancien et le Nouveau Testament sur les questions des couples mixtes? Et comment comprendre d'ailleurs les invitations bibliques à propos des couples mixtes? Faut-il les entendre? Je pose des questions, c'est pas une façon de suggérer ma réponse. J'essaie justement de les poser de manière distante. Est-ce que ces invitations à ne pas épouser un non-croyant, est-ce qu'il faut les entendre comme une consigne? C'est comme ça. Ou comme un conseil? C'est pas tout à fait pareil. Si c'est une consigne, est-ce que c'est une consigne comme une règle générale qu'il est préférable d'appliquer en général? Ne fais pas de randonnée hors sentier. Ça veut dire que faire de la randonnée hors sentier, c'est pas recommandé. Ça veut pas dire que c'est interdit. Mais sache que si tu fais de la randonnée hors sentier, tu te mets en danger. Ou bien, est-ce que c'est une règle impérative, valable dans tous les temps et dans tous les cas de figure, style, ne te jette pas du haut de la falaise. Parce que là, tu vas mourir. Ordinairement, tu vas mourir. Et puis, je pose le même problème sur un autre angle. Qu'est-ce qui pose problème dans ces mariages mixtes? Est-ce que c'est le mariage lui-même ou ce à quoi ce mariage expose? Et c'est toute la différence entre la loi et l'intention de la loi. Si la loi est faite pour préserver quelque chose, peut-être dans un autre contexte, on se préservera de la même chose avec une autre façon de faire. Et même quand nous sommes... Donc voilà, je pose juste les questions. C'est ce type de question qui surgit pour moi devant le texte et quand j'essaie de faire le lien avec la situation contemporaine. Même quand nous sommes d'accord sur les valeurs, nous ne réagissons pas tous de la même façon. Même si on considère, par exemple, qu'épouser un non-croyant est un interdit extrêmement fort, supposons qu'on le considère tous, est-ce que ça veut dire qu'on va refuser à un couple qui a pris cette décision et qui la tiendra de toute façon de les accompagner pour un mariage? Pourquoi se trouve-t-il que nous n'ayons pas les mêmes scrupules parfois à l'égard d'une cérémonie d'obsèques? Il nous arrive d'enterrer, si je puis employer ce langage, des personnes qui sont fichées complètement de la foi chrétienne sans que ça nous gêne. Et quand dans une situation de mariage, les choses sont, on est plus mal à l'aise. Est-ce que le mariage ou les obsèques à l'église sont un certificat de bonne conduite? Je vous envoie la question, mais je me la prends aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie de mariage à l'église? Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est principalement un moment de prière pour un couple, supposons qu'on se dise ça. Alors, c'est sûr que ce serait sans doute incohérent de prier pour que Dieu bénisse ce mariage, parce que si on sait que Dieu, a priori, ne recommande pas d'épouser un non-croyant, on ne va peut-être pas demander à Dieu de bénir ce projet-là. Mais on pourrait penser que si un couple a besoin d'entendre la parole de Dieu, d'être accompagné vers Dieu, c'est peut-être ce couple-là. Et peut-être qu'on peut prier d'une autre façon. Je ne sais pas si on peut le faire, mais... Donc, je veux juste dire que ces questions, elles se posent. Et qu'elles ne vont pas de soi. Elles ne vont pas de soi pour moi. Et qu'on ne va pas répondre de la même façon. Et c'est là que ce qu'on lit dans Matthieu 19 me rejoint. Le souci de la volonté idéale de Dieu, oui, il m'habite. Ça sert de barème. Et la conscience aussi dans Matthieu 19 et dans le Deutéronome, que Dieu lui-même a fait de la place pour des situations imparfaites. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire où on met la frontière, où je sais pas où on la met. Mais ces deux choses, elles sont là. Ah tiens, je ne m'attendais pas ce soir, non, enfin. Voilà, j'ai raté une diapo. On peut du même coup mesurer un autre facteur, et ce sera le décalage entre les questions que nous posons, qui nous tourmentent, et ce que la Bible nous donne. Et je l'ai illustré au début, donc en parlant des proportions, par exemple. Et je voudrais enfoncer le clou. Ça m'est apparu en regardant un questionnaire qu'une église m'avait donné. Je ne vais pas le prendre en détail. Donc, il évoque dans la colonne verticale plusieurs cas de figure, des jeunes cohabitant avant le mariage, des aînés cohabitant après le veuvage, etc. Et puis, il dit, devant ces situations, vous faites quoi? Est-ce que vous baptisez les gens? Est-ce que vous leur donnez la scène? Est-ce qu'on peut faire d'un membre inscrit, un membre actif? Est-ce qu'on peut parler de remariage ou de mariage dans l'église? Mais je me suis dit, en regardant ça m'a sauté aux yeux en regardant le questionnaire, mais je dis, mais attends, mais la Bible. Déjà, dans la Bible, il n'y a pas de cérémonie de mariage. Il n'y a pas de membre. Il y a des choses. Il n'y a pas de pax. Il y a pas de, parce que le tableau, là, on peut l'enrichir avec des situations. Et je me suis dit, mais entre la Bible et moi, là, je suis en train de poser à la Bible des questions. Je ne suis pas sûr que la Bible ait, la Bible a des éléments pour moi, mais comment je fais pour faire le lien entre ces deux rives-là? Il n'y a pas d'association cultuelle à l'époque. Les cérémonies de mariage à l'église, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas de bâtiment qu'on appelait église à l'époque. Donc je veux juste nous mesurer combien on entreprend de jeter un pont de réflexion, d'hypothèse, de construire quelque chose. Mais entre les questions qu'on pose et ce que la Bible nous donne, ça c'est pas gagné. Et je crois que ça serait surréaliste de prétendre qu'il y a une continuité évidente, une logique simple permettant de passer de la Bible à un règlement intérieur d'Église qui mentionnerait ces différents points. Alors j'ai envie de dire, mais ne vous méprenez pas, mes frères, mes sœurs, j'aimerais bien avoir l'organigramme. C'est-à-dire dans telle situation, chrétien, plus non-chrétien, divorcé, pas divorcé, situation de célébration mixte, catholique, évangélique, orthodoxe, évangélique. J'aimerais bien avoir l'organigramme. Je crois constater que la Bible ne le donne pas. La Bible ne me donne pas ça, il me semble. Elle ne connaît pas le cas de couple mixte entre catholiques et protestants, par exemple. Ben oui. Entre la Bible et moi, il y a une épaisseur d'histoire. Et même dans le Nouveau Testament, on ne nous dit pas déjà comment il faut réagir quand un chrétien envisage d'épouser un non-chrétien. On voit les questions de couple mixte en disant « si t'as, c'est le texte qui dit, si... » Comment ? Oui, mais alors on ne dit pas la réaction « si un attelage disparate arrive, qu'est-ce que j'en fais ?» On voit des situations en disant « mais voilà, par ton comportement, gagne-le, enfin, et un comportement pour que ton conjoint non-chrétien puisse être intéressé par la foi. » Donc, voilà, on ne sait pas s'ils sont mariés avant la conversion ou après. Mais donc, on ne dit pas dans l'Écriture, il me semble, quand le couple comme ça, l'attelage disparate se présente, qu'est-ce que je fais avec ? Donc voilà, je ne sais pas. Et cet organigramme, je pense que vous, comme moi, on essaie de le reconstituer à partir de ce qu'on est, à partir des données de la Bible. J'essaie de le reconstituer devant d'autres chrétiens, ceux qui sont responsables avec moi et qui luttent avec les mêmes questions et qui n'ont pas forcément les mêmes avis. Mais je reste un interprète et un interprète qui est faillible. C'est comme ça que je... Conclusion. Avant l'échange. Et je vais adopter largement le jeu, au lieu de vous inclure dans un « nous » dans lequel vous ne vous reconnaîtriez pas. Ou pas forcément. Donc libre à vous de vous associer ou non à ce jeu. Le titre, c'était « Un positionnement délicat ». Et c'est bien ce que j'ai voulu faire apparaître. Je crois qu'on est dans un positionnement délicat. Et j'ai voulu insister là-dessus. Et c'est peut-être dérangeant, mais j'entends bien, et ça l'est pour moi aussi. Mais je le fais aussi parce qu'il me semble que dans les milieux évangéliques, en tout cas pour ce que j'en connais, c'est quelque chose qu'on met peu en valeur. On est plutôt dans l'affirmation, parce que c'est important d'être dans l'affirmation, mais on n'ose pas forcément dire et se dire que c'est peut-être pas toujours si simple, quoi. Et du coup, je voulais faire retentir cette note, mais c'est pas la seule note. J'ai voulu le faire aussi parce que ça me paraissait important et dédramatisant, voire un peu libérateur aussi de le faire. Pour nous dire, j'ai envie de dire, c'est normal qu'on se prenne la tête. C'est normal que ce soit pas simple. C'est normal que nous ayons des regards différents. Enfin, c'est normal. Il y a une partie qui est normale au moins. Et ce qui serait étonnant, ce serait presque l'inverse, à la limite. Les solutions, je les ai pas moi-même, d'ailleurs. Il y a des choses qui me paraissent assurées à partir des textes. J'en ai évoqué quelques-unes plus haut, et je suis reconnaissant que ces choses soient là. Et il y en a beaucoup, quand même, enfin, il me semble. Il ne faudrait pas que les facteurs d'incertitude nous amènent à dire que bien, on est complètement paumé dans ce monde, quelque part. Je veux simplement dire que pour faire la transposition, faut mesurer, enfin, je dirais que c'est important de mesurer que la transition ne va pas de soi. Je dirais aussi que pour ma part, je sais ce que j'ai fait, quand des questions comme ça m'ont été posées. Et je crois savoir ce que je ferai dans certaines situations. Et puis, je peux vous dire très tranquillement qu'il y a des situations dans lesquelles je me sentirais sans doute bien désemparé. Jamais une demande de Pax pour le moment en Église. Seigneur, qu'il n'y en ait pas. Et je suis conscient que même là où les choses sont relativement claires pour moi, je resterai en désaccord vraisemblablement avec chacun d'entre vous. Comme je reste en désaccord avec ma femme sur bien des choses, quotidiennement. Mais j'ai envie de dire, j'ai parlé de mariage, parce que bon, il y a des questions de mariage, j'étais invité pour parler de ça, mais je serais tenté de dire que c'est vrai de bien d'autres sujets dans nos milieux évangéliques. C'est vrai donc des postures concrètes prises devant les couples, c'est vrai aussi mais sur la question du ministère féminin, sur les débats plus terre-à-terre ou plus plastique à plastique, sur les petits verres ou la coupe unique pour partager la scène. C'est vrai aussi pour des sujets qui sont beaucoup plus abstraits, parce qu'à la limite, ce qui s'est passé au début de l'histoire et à la fin, bon, on y sera ou on n'y sera pas. Bon. Donc le schéma de la fin des temps, c'est quoi? La façon de comprendre Genèse 1 à 3, c'est quoi? La prédestination, bon bref, on pourrait continuer la liste. L'idée d'unanimité pratique est peut-être un idéal auquel il serait juste apaisant parfois de renoncer. Et pour moi, alors là je vous livre ce que je... Pour moi, une des questions les plus importantes, c'est pas forcément d'arriver ensemble à l'unanimité, mais c'est de vivre ensemble avec nos diversités. Et parce que ce que je suis tenté d'entendre de la Bible, mais c'est une façon, encore, je prends le texte et je fais une application qui peut être discutée, Et pour paraphraser ce que dit Matthieu 19, moi j'ai envie de dire, je le reçois comme ça, dans l'Église, que les êtres humains que nous sommes ne séparent pas les êtres humains que nous sommes que Dieu a unis. C'est ma conviction. Ça ne m'empêche pas de faire des choix, et des choix qui ne font pas l'unanimité, et je continuerai à les faire par la force des choses. Mais je crois que je ne les ferai sereinement qu'en embrassant à bras-le-corps deux aspects. C'est que chaque fois que je décide, chaque fois que je me positionne, je le fais à partir des éléments dont je dispose, que je pense comprendre, mais ce sont des éléments partiels, ce sont des éléments insuffisants. Chaque fois que je décide, chaque fois que je me positionne, je le fais à partir de mon désir de servir Dieu et aussi d'un désir de révolte contre Dieu en moi. Enfin, je vais le dire autrement, je suis pécheur. Oui, je veux servir le Seigneur. Mais bon, il y a des fois, le Seigneur n'était pas très content des choix que je fais. Et c'est rassurant pour moi de trouver dans l'Écriture et dans Matthieu 19 le rappel que Dieu a les épaules assez larges pour prendre ça en compte. C'est le texte de l'Ecclésiaste, à la limite, Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Donc je veux rester confiant. Donc je suis humain, je vais dire autrement, je suis humain et je suis pécheur. Donc je suis humain, donc il y a des choses que je peux pas être ici et chez moi en même temps. Dieu lui, il peut le faire. Je suis humain, je sais pas ce qui se passe en ce moment chez moi. Et vous non plus, vous ne savez pas. Penchez-vous, et penchez-moi non plus, bien sûr. Et je suis pécheur. Donc indépendamment de mes limitations qui vont impacter la situation, je suis aussi pécheur. Je veux rester confiant au sein de l'incertitude et en même temps de l'engagement, parce que je crois en Dieu qui appelle et en Dieu qui tolère, et plus que ça, je crois en un Dieu qui pardonne. Et je dis un dernier mot, je reste un interprète, c'est-à-dire quelqu'un qui lit, qui fait une lecture faillible du texte, qui fait des transpositions faillibles du texte. Et je vais le dire dans un autre sens, et je reprends une image que je dois à un théologien anglophone, N.T. Wright. Il propose de penser la Bible de la façon suivante. Il dit, la Bible nous raconte l'histoire de la façon dont Dieu a déployé son plan de salut, et la Bible nous est laissée à prolonger dans notre histoire à nous. Et il dit, c'est un peu comme si on confiait à une troupe d'acteurs de théâtre, on leur donnait une pièce de théâtre à jouer, et on leur donnait, c'est une pièce en 5 actes, et on leur donnait les 4 premiers actes. Le 5e acte, on l'a pas. Et donc le public est là, ils jouent la pièce, ils n'ont pas le 5e acte, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils improvisent. Mais ils improvisent pas n'importe comment. Parce qu'ils incarnent chacun des personnages qu'ils ont vus évoluer avant, donc ils savent ce que les personnages sont. Nous, on sait par exemple l'intention de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui sont claires. Donc on ne peut pas prolonger de manière en improvisant, juste on a envie de faire comme ça aujourd'hui, bon, on va faire comme ça aujourd'hui. Non, il y a une continuité qui est là. Mais pour terminer la pièce, pour jouer notre rôle, il va falloir aussi improviser. Donc c'est pas une improvisation qui se passe dans le vide. D'ailleurs, comme les improvisations musicales. Les improvisations musicales, ça se travaille. Hein. Si on est sur un accord de Do, a priori, on va pas partir en 2 dièses. Hein. Sauf en jazz. Hein. Donc il va s'agir de s'inscrire en continuité de ce qui précède. Et en même temps, nous n'avons pas la certitude que l'auteur de la pièce aurait souhaité que nous interprétions comme nous allons le faire. Mais nous interprétons. Que Dieu nous aide à mieux interpréter ensemble dans un sens qui l'honore et qui est prolongement de l'Évangile dans toutes ses dimensions.